Bonjour, j'aimerais juste revenir sur votre conclusion par rapport à action sociale et travail social. Il faut garder le binôme ensemble. Est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième élément qui ferait la distinction, qui reviendrait à la distinction que vous avez fait vous-même entre travail du social et travail social? Le travail du social étant le travail de la société sur elle-même, le travail social étant davantage le travail social professionnalisé. On est pas mal dans des enjeux maintenant de croisement des savoirs avec la société civile. Et je me demande s'il ne serait pas intéressant d'ouvrir la réflexion sur est-ce qu'il ne faut pas faire tenir ensemble action sociale, travail social au sens de travail social professionnel et organisation de la société civile, associative, etc. Comment vous réfléchissez à ça?
Je ne suis pas en désaccord avec vous, mais je pense qu'il faut serrer les objets. C'est-à-dire que ce qui fait objet pour l'instant, c'est la part dans ce travail du social général, la part du travail salarié organisé en profession légitime, protégé par des diplômes d'État ou équivalents, et qui ont des fonctions particulières. On peut s'intéresser à ça. Alors qu'ensuite, il y ait des liens, des ouvertures avec ce qu'on appelle, alors la société civile, c'est tout et n'importe quoi, vous êtes d'accord avec moi, c'est aussi bien le patronat, les investisseurs, les social impact bonds, que l'église, que les djihadistes, tout ça c'est société civile, hein. Je veux dire, non, c'est indéniablement, il n'y a pas d'exclusion, là, c'est tout le reste, tout ce qui n'est pas la société politique, ça me paraît un concept difficile à manipuler au jour d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut quand même revenir à une réflexion sur le phénomène professionnel, le phénomène salarial, le fait que, pour partie, et c'est assez fondé, on a confié une partie du travail de production de socialité, d'intervention, à des professionnels ad hoc. Et je crois que ça demeure une question. Même s'il y a des ouvertures importantes, nécessaires, indispensables. Je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas, mais faudrait prendre des exemples, je n'ai pas le temps. Mais je ne crois pas que, par exemple, si on reprend un peu dans Bianco Lamy sur la protection de l'enfance, le fait que bon, les enfants sont les victimes de la protection de l'enfance, il faudrait plutôt aider les parents dans leur fonction parentale, OK, bon. Et alors ? Est-ce qu'on a réussi par cette voie-là? Certainement pas. On peut coopérer. Mais il reste qu'il y a des enfants à prendre en charge par des professionnels parce qu'il y a des parents qui ne font pas, etc. Est-ce que l'idéologie qui veut qu'aujourd'hui on ferme les instituts médico-éducatifs pour les enfants handicapés parce que ce serait des lieux de... la critique institutionnelle actuelle, ça serait des lieux contraires aux libertés publiques individuelles, ça serait des lieux de soumission, des lieux de routine. Enfin, la charge est terrible contre les associations pour l'instant. Et quand on a des ministres qui annoncent qu'on va fermer rapidement tous les IME de France et de Navarre et même de Belgique, enfin si on pouvait, puisqu'on envoie ceux qu'on ne peut pas loger en France, on les envoie en Belgique pour la prise en charge, je pense, des enfants autistes par exemple. C'est une vue de l'esprit, la société civile. Les parents eux-mêmes sont incapables d'assumer totalement et ils ont besoin d'associations support. Je reprends la notion de support à Robert Castel qui en a fait une théorie très importante. Les supports sont des étayages de la vie collective, et le travail social fait partie de ces supports. C'est pas le seul support, mais il faut des supports. Ben, c'est tout ce que je veux dire. Alors, je suis pas d'accord avec vous que les gens se prennent en charge pour partie, qu'on les aide, ils ont des ressources. Et oui, bien sûr, ça a toujours existé. Je crois qu'il y a toujours eu des mouvements sociaux pour partir des gens pour les organiser. Mais en même temps, il faut plus. Il faut des supports spécialisés, il faut... c'est la leçon de l'histoire. Ça existe dans tous les pays, ça existe en France depuis maintenant un certain nombre d'années. La tendance à la professionnalisation coûte cher. Est-ce qu'on peut encore la soutenir sur le plan économique? Ça, c'est un vrai problème.
Oui, une question, Michel. Tu as dit en conclusion, le travail social s'épanouit lorsqu'il y a une forte convergence, mais aussi une inventivité par le bas. Et c'est cette inventivité par le bas qui me semble problématique, parce que tout le monde peut se revendiquer de cette inventivité. Et aujourd'hui, s'il y a un nouveau champ de tension qui naît, qui serait un peu équivalent à celui qu'il y avait entre la description que tu as faite de l'esprit de 72 et de 74. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un nouveau champ de tension dans le travail social où tout le monde se revendique de cette inventivité entre un travail social qui voudrait être plus libre et autonome, mais aussi un peu éloigné de toutes les formes de gestion, et puis une tendance aussi très forte quand même qui pèse sur une volonté justement toujours d'évaluation et qui crée justement un champ de tension qui peine un petit peu peut-être à s'articuler. Est-ce que c'est pas là que doit se créer de nouvelles controverses pour redonner un sens au travail social?
Oui, oui. Tu finis sur les controverses, c'est par ça que je voulais répondre. Aujourd'hui, il y a matière à controverse, mais il n'y a pas de controverse. Bon, c'est une des difficultés. C'est-à-dire qu'un aspect très positif des années 70, c'est l'existence de controverses. Alors, bonne, mauvaise, je ne porte pas de jugement sur la valeur académique de ces controverses. Je les situe comme controverses qui font exister un champ, qui donne une image sociale, qui est... Bon. Aujourd'hui, il n'y a pas de controverse. Il y a une avancée considérable des logiques gestionnaires qui embolissent tout, mais pas uniquement dans le travail social. D'ailleurs, c'est vrai partout, à l'université, c'est vrai dans la recherche, c'est vrai partout. Partout, il y a de l'argent public qui est investi. Depuis la loi organique sur les lois de finances, il y a une obligation de rendre compte du moindre euro utilisé qui relèverait de la poche des citoyens. Voilà, c'est un peu cette espèce de norme morale, de nouvelle morale citoyenne. Bon, alors, effectivement, à ce régime-là, ça laisse personne indifférent. Mais il n'y a pas assez de controverses sur ces questions-là. Il n'y a pas assez de controverses sur ces questions-là. Et il y a une difficulté à prendre la parole et à écrire aujourd'hui, même si des tas de gens continuent à le faire. Ce n'est pas facile de percer, de déboucher, de diffuser. Les revues se réduisent en nombre. Il y a des problèmes qui emportent le débat public. Par exemple, je sais pas quoi, la radicalisation aujourd'hui des jeunes. Voilà. Alors ça, si vous voulez investir là-dedans, faites dans la radicalisation. Hier, c'était le sida. Enfin, il y a des problèmes qui deviennent qui occupent tout le terrain. Alors on en oublie les problèmes basiques, les vieux qui vieillissent, les handicapés qui handicapent, les enfants qui sont à protéger. Enfin, non, mais ils n'ont pas bougé, ceux-là. Ça continue. Alors moi, je pense que la tension entre les normes juridiques qui ne sont pas inutiles puisqu'elles rendent possible, elles donnent du sens. Ce qui pose problème, c'est l'excès des normes juridiques lorsqu'elles deviennent des normes réglementaires. Lorsqu'il y a une armée d'intermédiaires pour évaluer, valider, vérifier, etc. C'est ça qui devient excessif. Il y a un monde maintenant qui s'est fabriqué, un monde parasite qui s'est fabriqué, qui s'appelle les qualiticiens, les évaluateurs, etc., etc. C'est un monde de parasites qui bouffe une partie du fric, d'ailleurs, inutilement. Inutilement. Je crois que c'est ça une des pathologies du moment actuel, et les attaquer, les dénoncer, c'est pas facile quand on est soumis à leur force, parce que c'est une force qui pourquoi les gens se soumettent-ils à cette servitude obligatoire? Ils le font parce que, d'abord, il y a un risque pour les financements de leurs établissements. Si je réponds pas aux enquêtes de qualité, de performance, parce qu'il y en a toutes les semaines, ça arrive en permanence. Il faudrait pas que quelqu'un passe son temps à faire ça. Et donc, professionnels disent, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour remplir des cases. On en est là pour rencontrer des gens. Ce qui est heureusement qu'ils disent ça. Mais ils le font quand même parce que c'est une question de survie. Donc on est dans un rapport, ce fameux, cette convergence un peu historique, qui est pour l'instant biaisé par surdéveloppement à l'excès, mais comme dans d'autres domaines, du poids administratif, du poids gestionnaire, du poids de la règle, du poids du financement, et tous ces trucs-là, avec des inventions tous les jours. Enfin, la tarification, les modèles Séraphin PH, j'en passe, et des tas de gens qui contribuent à fabriquer toutes ces normes-là. Et puis inversement, des gens qui sont renvoyés à de l'exécution sous contrôle, et qui perdent leur capacité d'inventivité, ou alors qui se disent il faut la vivre ailleurs. Il faut la vivre ailleurs. Mais avec quels moyens? Parce que il y a une c'est ça. L'attention a toujours existé, mais les pouvoirs publics ont eu l'intelligence de la gérer correctement pendant à certaines périodes, parce qu'on avait besoin de cette ressource-là. Aujourd'hui, on est presque une période de liquidation. Et donc, ça crée des difficultés.
Plusieurs questions dans la salle. D'abord, Martine Trapon, puis ensuite Vincent Meyer, David Furrer, et puis...
Oui, moi, la question de la société civile et la question que vous posez, Patrick Ernst, est très fondamentale. Moi, je pense à un troisième élément du binôme que tu as très bien éclairé, c'est l'action sociale et travailleurs sociaux dans les années 70-80. Il y avait des mouvements sociaux. Moi, je pense, par exemple, évidemment, au mouvement de libération de la femme, qui a protesté, j'y étais là, à l'époque, puisque j'ai fait mes études d'AS à cette époque, pour protester contre l'entretien, par exemple, d'évaluation qui était inclus dans le processus, par exemple, de demande d'avortement. Et on a obtenu des choses, nous avons obtenu des choses. Et Simone Veil a pu faire passer cette loi parce qu'elle était portée aussi par un mouvement. Il y avait donc des mouvements politiques où il y avait des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, et qui créaient un autre espace de lutte, un rapport de force. Selon moi, le dernier mouvement qui a porté justement et qui a permis de travailler ce compromis historique entre l'action sociale et les travailleurs sociaux, c'était la question autour des personnes atteintes du sida. Là aussi, je travaillais dans ce champ, où vraiment... il y aurait un travail à faire pour expliquer comment les mouvements ACT UP, AIDE, les mouvements par exemple de soutien, de support aux toxicomanes et aux séropositifs, ont permis des améliorations de la vie hospitalière, ont permis l'amélioration des soins palliatifs, ont permis par exemple de donner des soins palliatifs à des gens qui ne les recevaient pas avant, enfin des antidouleurs nourrissons. C'est grâce aux mouvements... Des toxicomanes et des personnes atteintes du sida. Aujourd'hui, pour une raison qu'il faudrait analyser, là moi je suis bien placé pour le savoir, outre le fait que quand on est dirigeant comme moi, on n'a pas le choix, comme tu dis, si tu réponds pas à l'appel d'offres, tu perds 30 000 euros, quoi, basta. Hein. On ne te demande pas de discuter le pourquoi, le comment, et patati patata. Voilà, c'est ça la question qui se pose, mais on n'est pas non plus porté de l'extérieur par des mouvements sociaux qui ont un autre objet ou qui, je trouve qu'il y a un travail là qu'il faudrait faire là-dessus. Voilà, j'arrête parce que ça me passionne toujours. Hein. Et merci Michel d'avoir éclairé ça, parce que je m'étais jamais entendu aussi clairement cette affaire du binôme et d'un troisième élément sur lequel évidemment peut-être que je me trompe, j'en sais rien, on verra bien.
Non, tu te trompes pas, pas tout dire.
Oui, merci beaucoup. Je voulais simplement compléter toute la liste par le travail qu'a fait l'AMIR quand même sur un ouvrage, Jean-Noël Chepard, sur les mutations du travail social, qui a été un moment important avant 2002. Voilà, aussi, où Michel Hottès a contribué. Enfin, on était quand même dans la controverse aussi. À cette époque-là, et je suis étonné que cet ouvrage-là n'ait pas eu l'écho qu'il méritait. Et ensuite, effectivement, c'est extrêmement dur de faire converger ces forces d'en haut et ces forces d'en bas quand elles sont hyper institutionnalisées par le haut. Je n'en veux que pour preuve le Conseil supérieur du travail social qui a vécu et que j'ai bien connu. Maintenant, le Haut Conseil du Travail Social, l'ANESM, l'Agence Nationale pour l'Évaluation des Services Sociaux et Médico-Sociaux, les États Généraux du Travail Social. Voilà, que d'instances, que de choses qui produisent et qui finalement nous amènent à des avancées qui sont purement gestionnaires et qui nous poussent dans une tyrannie du projet. Voilà, en permanence, on est vraiment dans la tyrannie du projet. On n'a même pas le temps de terminer un projet qu'on est déjà obligé d'en faire un autre. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement difficile. Et je voulais juste, si j'avais une question, le dernier rapport commis sur lequel je me suis beaucoup battu au CSS, c'est sur le travail social communautaire, c'est-à-dire la solution par les usagers. en dehors des dispositifs existants. Je voulais avoir ton avis sur le travail social communautaire.
Le temps avance, donc on comprendra peut-être quelques questions en fin de matinée, mais on va passer la parole à David Führer et à sa voisine.
Je répondrai quand même.
Et Michel, en 30 secondes.
Mais deux mots.
Vincent, j'ai droit à deux mots. Bon, merci d'avoir parlé du bouquin de Jean-Noël Chopard, hein, sur 99. On en parlait tout à l'heure avec Michel Hautesse. Malheureusement, on se disait que c'était la dernière tentative critique connue. À quoi a répondu d'ailleurs des mobilisations du genre CQFD, c'est la qualification qu'il faut développer, des velléités de tentatives et les premiers états généraux du social en 2004. Mais on a perdu la bataille à ce moment-là. Et Jean-Noël a perdu la vie en même temps, mais malheureusement, mais c'est pas ça l'histoire, c'est qu'il a tenté jusqu'au bout de pousser dans le style des années 70, je dirais, pour aller vite, mais c'était fini déjà. C'est-à-dire que le système avait complètement embolisé tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quant à la question de la communautaire, j'ai pas le temps d'y répondre. Faut demander à des gens beaucoup plus spécialisés que moi là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant, mais à consommer avec modération. Parce que c'est pas la solution non plus. Faut pas en faire une espèce de panacée universelle. Y a de la place pour ça, bien évidemment. Il y a toujours eu, d'ailleurs, sous d'autres formes diverses et variées. Et je pense que ça a à voir avec la remarque de Martine sur l'existence ou non de mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais le communautaire est d'autant plus facile qu'il y a des mouvements sociaux autonomes et indépendants du travail social et avec lesquels on peut faire des alliances. Si ça doit être de l'animation des mouvements sociaux qui n'existent pas, à mon avis, ça perd un peu de son intérêt. Il faut que si ça vient des gens, il faut laisser que ça vienne des gens. C'est comme dans l'histoire des usagers. Les usagers, on en a fait une obligation absolue, l'usager au centre, etc. Mais il y a des usagers organisés depuis un siècle. Les parents d'élèves de l'école publique ou de l'école libre, les associations de locataires, les mouvements familiaux, tout ça, c'est des associations d'usagers qui n'emploient ou n'emploient pas le terme, qu'importe, mais la chose, ils l'ont bien compris depuis longtemps, il faut défendre leurs intérêts, éventuellement, contre le travail social. C'est vieux comme le monde. Donc on en fait maintenant une catégorie d'action de modernisation, mais c'est une erreur d'histoire, c'est tout.
David Führer, Cathy Bousquet.
Bon, alors, rapidement, c'était autour de l'idée qu'il y a motif à controverse, mais il manque de controverse, et que la controverse est portée par des mouvements sociaux. Et vous disiez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se resserre autour de la défense des conditions d'exercice du travail social, autour du salariat, autour des conventions collectives qui sont grignotées, remises en question, etc. Et je ne suis pas spécialiste de l'histoire du travail social, mais est-ce que c'est un premier moment du travail social qui devrait se défendre pour lui-même, c'est-à-dire un peu à l'image des mouvements ouvriers pour des droits salariés, etc., et pas porté par un mouvement social, ou est-ce que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, est-ce que c'est une espèce de nouvelle forme de problème, est-ce que les travailleurs sociaux auraient à s'inspirer des mouvements syndicaux?
David, je vous propose de passer le micro à votre voisine, et puis Michel fera une réponse en 15 secondes.
Moi, je voudrais juste questionner Michel sur son binôme et donc tout le rappel historique. Moi, je conduis actuellement une recherche sur la question du genre dans le travail social. Et donc, j'ai réinterrogé à la fois cette histoire que tu nous as posée et l'actualité. Et il me semble que, en tout cas moi, j'arrive à apporter des éléments de compréhension qui viennent éclairer comment on est dans cette dualité et ce qui vient d'être dit du côté de l'hyper-institutionnalisation. C'est-à-dire qu'on est dans un processus qui se répète, alors que l'imaginaire du social, il est quand même venu d'un imaginaire citoyen, même si on était dans un contexte, mais enfin, je veux dire, un imaginaire d'émancipation est porté par des citoyennes qui n'avaient pas de droit politique. Et moi, je trouve que cette question-là, du côté de la profession, de la professionnalisation, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment inclus ou mis au travail dans les formations, dans les transmissions. Voilà, j'ai appuyé la question.
Non, parce que j'ai envie d'en dire plus, mais j'ai oublié quelque chose, tenez, ça va répondre indirectement. J'ai oublié quelque chose parce que j'avais fait une référence à Castel dans, à propos du contrôle social. On est loin un peu des questions qu'ils ont posées, mais où il explique dans un article fameux sur naissance, apogée, déclin du contrôle social, donc une revue un peu des années 70, qu'on a commenté au moment du printemps Castel. Il explique un peu comment, de son point de vue, cette notion a pris forme. Et il montre qu'il y a convergence. Alors là aussi, il y a convergence de deux facteurs. Il y a un facteur, épistémologie, épistémocritique, hein, venant d'en haut, c'est que la notion existe déjà dans le champ académique de la sociologie. Il y avait eu les travaux de Bourdieu, les travaux de Baudelot et Establet sur la critique de l'école, j'en passe, et des meilleurs. Et la récupération ou l'utilisation de ces catégories par le mouvement social étudiant, post-étudiant, post-68, dans une perspective plutôt anarcho-libertaire. Hein? Et il explique assez bien la convergence de ces deux mouvements qu'on ne peut pas confondre. Alors, d'autant plus que l'utilisation va être différenciée selon les secteurs. Ça prend très fort dans le secteur asilaire, dans les secteurs où la coercition est la plus forte. Asile, prison, éducation surveillée, justice. Là, il y a une élaboration. Il y a les travaux de Philippe Robert, par exemple, sur le renvoi du déviant, que je cite là, et vous pourrez retrouver ça. Inversement, la question du contrôle social marche mal, est peu théorisée du côté du service social, de la protection de l'enfance, etc., malgré quelques textes, ici ou là, parce que ça s'applique moins. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, ça répond à aucune de vos deux questions, mais simplement, non, ça ajoute à l'hypothèse de la tension, de la nécessaire tension et de la nécessaire régulation de ces tensions. Ou on les laisse faire, ou on les interdit. Pour l'instant, on est dans une phase d'interdiction des tensions et d'étouffement des tensions par la force dominante, qui est une force gestionnaire, rationalisatrice, gestionnaire, et l'interdit posé sur la pensée, sur la clinique, sur le principe de la rencontre avec l'autre. On parle plutôt d'accompagnement, ça édulcore un tout petit peu, etc. etc. Il y a une bataille des mots, d'ailleurs, que les travailleurs sociaux devraient mener partout, c'est-à-dire veiller à ce que les mots de métier ne disparaissent pas purement et simplement du vocabulaire au profit des mots de la gestion. C'est un travail presque de résistance quotidienne, locale, nécessaire. Et nous, les intellectuels, puisqu'il y a quand même des gens qui ont un peu ce métier-là en tête, comme profession, on devrait aussi faire attention aux mots qu'on emploie. Moi, quand je parlais d'inclusion tout à l'heure, je suis très dubitatif sur l'intérêt de cette notion d'inclusion qui pourtant fait florès pour l'instant. L'inclusion partout. Voilà. Et je crois que ce travail épistémologique-là, qui est cité donc par Castel à l'origine de la vague du contrôle social, serait à reprendre aujourd'hui avec les mots du moment, les mots en question. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. Je vous propose. On peut l'applaudir encore une fois. Merci.